Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Et je voudrais commencer par nous poser une question. Pour quel motif précis j'admire Jésus ? J'affine cette question. Quelle qualité que possédait Jésus, j'aimerais posséder ? Nos réponses seront évidemment différentes. Je ne pense pas que c'est pour sa beauté physique que vous voudriez lui ressembler, puisque Ésaïe dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pour certains, ce sera probablement les dons miraculeux, pour d'autres, des dons d'enseigner, d'évangéliser, pour les dons de diaconie, et ceux qui s'y rapportent, le médical et tout ça. Pour d'autres, c'est sa sagesse, sa finesse, son intelligence, son discernement, et évidemment, son amour parfait. Vous est-il déjà arrivé de réagir à chaud et de parler trop rapidement, sans peser vos mots par rapport à un événement ? Vous est-il déjà arrivé de juger trop rapidement sans vérifier les faits? Vous est-il déjà arrivé de penser que vous avez le bon discernement, le bon diagnostic, et vous vous êtes trompé? Vous est-il déjà arrivé d'être avec quelqu'un, un ami, un collègue de travail, un frère, une sœur, un membre de votre famille, votre conjoint, qui a une réaction maladroite, déplacée, inopportune, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Et vous auriez souhaité ne pas être présent à ce moment-là. Le résultat de toutes ces situations, nous sommes gênés, honteux, confondus. Il y a des personnes blessées à la clé, et dans certains cas, il faut aller s'excuser et demander pardon. Nous allons donc ce matin nous arrêter spécialement sur la sagesse de Jésus, sur la finesse et l'intelligence de Jésus, sur son discernement, sans oublier son amour parfait. Prenons quelques exemples. Jésus avec l'aveugle de naissance, Jean 9, 1 à 3. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Avec les pharisiens à propos de l'impôt dû à César, Marc 12, 14. « Maître, disent les pharisiens, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne. Car tu ne regardes pas la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comme Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César ? Devons-nous le faire ou non ? Ils insistent. Alors Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et ils restèrent tout déconcertés. Jésus avec l'opposition des Samaritains, troisième exemple, Luc 9, 52 à 55. Il était en Galilée, il voulait aller en Judée, il devait traverser la Samarie. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Et enfin, un quatrième exemple que je vous propose de regarder en vidéo.
Jésus va au Mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus : « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit : « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit : « Où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» La femme lui répond : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. »
Pourquoi acquérir les qualités de Jésus ? Pour commencer, il y a deux choses importantes à souligner. Il y a des qualités de Jésus que nous ne pouvons pas acquérir. Son égalité avec Dieu, son statut de Dieu, sa puissance pour sauver les hommes, son autorité pour juger les hommes. En somme, tout ce qui est divin en lui. Et puis après, il y a les qualités de Jésus que nous pouvons et que nous devons acquérir, c'est-à-dire toutes les qualités que nous trouvons dans sa parole, et en particulier celles que nous allons lire tout à l'heure. Nous lisons au début du livre des prophètes, des Proverbes, au chapitre 1, verset 7, « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. » Une autre traduction dit : « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » Et dans Job 12, 13, « Auprès de Dieu se trouvent la sagesse et la force. » C'est à lui qu'appartiennent conseil et intelligence. Sagesse, intelligence et discernement ne vont pas sans l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour seul ne discerne pas les problèmes. Il peut donc les ignorer et passer à côté de la vérité. La sagesse seule révèle les problèmes. Mais la communication sans amour fait échouer le résultat attendu. Oui, ce que j'aime chez Jésus, c'est sa sagesse, son intelligence, son discernement et son amour dans toutes ses interventions. Je vous propose donc une lecture de Maxime biblique qui se trouve dans Proverbes 2, 1 à 22. Les proverbes ont été écrits pour que le peuple de Dieu ait des maximes alimentées par la pensée de Dieu comme support pour la vie de tous les jours. Puisque les autres peuples avaient aussi des maximes, mais non inspirées par Dieu. Et nous lisons. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit, équitable, et reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Alors tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles angéleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort, qui est là sa demeure, et sa conduite mène au séjour des morts. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en reviennent. Aucun ne retrouve le chemin de la vie. Si tu écoutes mes conseils, si tu marches dans la voie des hommes de bien, et tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront, mais les méchants en seront extirpés, et les traîtres en seront arrachés. C'est un grand programme, hein. Et nous pourrions faire demi-tour devant ce programme. Mais le Seigneur nous l'a donné. Et j'ai trouvé une belle synthèse d'une sœur, Mehdi Marinette. C'était une sœur qui fait surtout des réunions de dames, comme entre elles. Et elle dit ceci. Le fondement de la sagesse, c'est la crainte et le respect de l'Éternel, ainsi que l'obéissance à ses préceptes. Sur ce fondement, telles des colonnes de grand prix, se tiennent l'intelligence et le discernement. Une bâtisse avec de tels fondements et colonnes est similaire à une construction antisismique. Si tu recherches et appliques ces éléments dans ta vie, tu seras, malgré les tempêtes, malgré les cyclones, malgré les tremblements de terre, tu seras inébranlable. On pourrait presque arrêter là la prédication. Ici, les témoignages avaient continué, mais j'aurais arrêté là. Mais pourquoi faut-il chercher la sagesse, l'intelligence et le discernement ? Parce que tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable. Tu apprendras à reconnaître le sentier du bien. La sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi. Tu seras préservé de la femme d'autrui. Tu marcheras dans les voies des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes. Je pense que nous aspirons tous à vivre ce chemin-là. Alors comment acquérir cette sagesse ? Premièrement, dans ce que Dieu a dit et mis par écrit. Ça tombe sous le sens, car c'est une nourriture pour notre vie. Elle nous révèle les bonnes et les mauvaises expériences que nous trouvons dans la Bible pour nous guider dans nos choix. Elle fait pas l'impasse sur ce qui est moins honorable. Et elle nous encourage à l'obéissance en mettant en pratique ce que nous y lisons. Deuxièmement, par la prière. Nous l'avons encore entendu ce matin. La personnelle, la communautaire. C'est là que nous puisons les forces pour résister aux ruses du malin qui veut nous détourner de ces choses précieuses. Troisièmement, par la communion fraternelle, nous nous confrontons à nos différences et nous enrichissons par nos partages. Nous y aiguisons nos connaissances et affinons notre savoir. Le pasteur Maurice Ray a dit ceci. Dans le partage biblique, une personne dit ce qu'elle reçoit de la parole de Dieu et une autre personne l'élève encore plus haut par sa réflexion. Et enfin, quatrième point, par l'exercice des dons que nous avons reçus. C'est là que nous forgeons et améliorons notre sagesse. Si nous choisissons d'être un chrétien pyjama, nous allons devenir obèses. Nous connaîtrons les définitions de la sagesse en hébreu et en grec, mais pas en parole et en acte. Si nous choisissons d'être un chrétien camping-car, nous allons quitter nos lieux d'apprentissage à la première mise en garde ou mise en pratique, et nous resterons un chrétien au cours préparatoire. Mais si nous choisissons d'être un chrétien de terrain et d'église, notre sagesse va se peaufiner, s'améliorer, s'affiner, avec des épreuves et même avec des échecs. À ce stade, je voudrais nous laisser une parole que j'ai trouvée, mais il n'y a pas l'auteur, donc je ne peux pas vous donner l'auteur. Elle peut être même d'un non-croyant. La sagesse permet de tirer des leçons des erreurs et des souffrances. Elle est le fruit d'une véritable démarche d'apprentissage et de connaissance de soi. Avant-dernier point, où est la clé de la réussite? Elle se trouve dans le texte que nous avons lu ensemble, Proverbes 2, 1 à 22. Lorsque nous regardons ce texte dans notre Bible, et l'idéal, c'est d'avoir une Bible qui va à la ligne à tous les versets. Avec un peu de hauteur, nous y voyons apparaître 8 si et 4 alors. J'ai envie de dire que c'est la façon de parler de notre Dieu. Première clé, examinons les si de notre Dieu. Nous sommes appelés à prendre acte des conseils et de ses recommandations. Il suffit de regarder les verbes utilisés après chaque si. Acceptez mes paroles. Conservez les préceptes. Donc il ne faut pas que ça s'envole. Prêtez l'oreille attentive à la sagesse. Aussi celle des autres. Incliner le cœur vers l'intelligence. Faire appel au discernement. Rechercher l'intelligence comme l'argent. Nous avons tous l'argent. Nous avons besoin. Chercher l'intelligence de la même manière. Et enfin, un verbe fort, c'est creuser pour trouver les trésors. Vous avez compris que tous ces encouragements s'obtiennent lorsque nous nous mettons en action. Dans la communion avec les autres frères et sœurs dans l'Église, et non en pyjama, et ni en camping-car. Quand la sagesse prend autorité sur nous, elle n'est pas seulement théorique, dans nos pensées, mais elle entre dans notre cœur et devient une puissance qui nous protège, à la fois contre les corruptions internes, à nous, et les tentations externes. Salomon, qui a écrit ces proverbes, a fait au début de son règne une prière qui devrait nous inspirer profondément dans notre recherche de la sagesse. 1 Roi 3:9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Un roi qui demande ça. Dans cette intercession, Salomon s'humilie devant le Seigneur et reconnaît ses limites. Alors, Dieu peut donner. Dieu peut donner à quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin. Et la définition de la sagesse, c'est qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Nous avons cité Proverbe 1:7, le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Comme la crainte de Dieu implique habituellement l'obéissance à ses commandements, il y a un lien étroit entre la sagesse et l'obéissance à la loi de Dieu. Chers amis, dans la vie, il y a des moments de profonde incompréhension, où il faut faire des choix difficiles. Parfois, les choses nous échappent complètement et nous n'avons aucune idée de la manière dont il faut agir, aucune idée de la manière dont nous allons sortir de cette difficulté. Mais dans la Bible, nous lisons aussi au Proverbe 8:2 que la sagesse est à la croisée des chemins. Il nous faut donc puiser de la sagesse pour avancer à cette croisée de chemin. Dans ces situations particulières, nous avons vraiment besoin que Dieu nous donne cette intelligence pour discerner ce qu'il convient de faire. La sagesse de Dieu nous gardera sur le chemin de la joie en Christ et des bénédictions associées à notre marche. Elle nous permettra d'éviter de faire des erreurs ou des péchés qui nous éloigneraient de Dieu. Et la deuxième clé, c'est nous approprier les alors de Dieu. Ce sont des bénédictions que nous recevons. Encore une fois, nous les acquérons par la pratique. Il nous est dit, alors tu comprendras ce qu'est révéler l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Et dernièrement, dans les partages que nous avons eus à l'étude biblique et autres, groupe de maison, nous nous sommes rendus compte combien, jour après jour, rencontre après rencontre, Dieu se révèle tel qu'il est. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien qui alimentent notre raisonnement. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver des mauvais choix. Alors tu seras préservé de la femme d'autrui. Ah les amis, ce n'est pas pour rien que Jacques dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. » Car l'Éternel donne. Et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Pour conclure, dans Colossiens 2, 3, il nous est écrit « En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Puisque c'est caché, il faut creuser. Pour creuser, il faut prendre du temps. Non, la sagesse ne nous tombe pas dessus. Il faut la chercher comme l'argent. Alors je termine avec une réflexion de Louis M. Il n'a pas donné son nom de famille, donc je ne peux pas vous le donner. Mais je vous le livre parce que j'ai apprécié. La sagesse et l'intelligence contiennent une part d'instruction et une part d'apprentissage. Nous devons alors nous laisser enseigner en suivant ces trois pistes. Première piste, il faut chercher ses vertus auprès de Dieu, en développant une intimité toujours plus grande avec le Seigneur et avec sa parole. Nous grandirons naturellement dans ces domaines. Notre Dieu n'a-t-il pas créé l'univers avec sagesse et intelligence? Deuxième piste. La sagesse se trouve auprès des sages. N'allons pas trouver la sagesse en compagnie des moqueurs et des insensés. Mais parfois, nous l'oublions. Il nous faut donc régulièrement réfléchir si nos amis et fréquentations nous édifient ou non. Nous pouvons aussi passer du temps avec des gens plus mûrs dans la foi. Troisième piste, nos motivations viennent du cœur. Et celui-ci sera plus sage et intelligent s'il est renouvelé par le Saint-Esprit. Dieu regarde au cœur, et c'est du cœur que viennent toutes nos pensées. Il est donc capital de remettre sa vie au Seigneur et de devenir une nouvelle créature en Christ, afin que le Saint-Esprit nous éclaire et non nos propres réflexions. N'oublie pas que, comme toute bonne chose, c'est un don de Dieu, tu peux les lui demander dès maintenant. Tu as sans doute des choix importants et difficiles à faire dans ta vie. Pour cela, voici un exemple de prière que tu peux faire. Et je vous la livre. Et nous pouvons la prier ensemble. Seigneur, toi qui renouvelles tes grâces tous les matins, nous te demandons que tu nous donnes un cœur sage et intelligent pour comprendre ce qui nous arrive et nous éclairer dans les choix que nous avons à faire, dans la manière dont nous devons procéder afin d'agir dans l'intérêt de ton royaume et pour l'accomplissement de ta volonté dans notre vie. Amen.